On revient sur la participation de notre Miss Tahiti au concours Miss France, sur le succès aussi d'un styliste du Fénois, et puis en fin d'édition, on se penche sur le bilan des Jeux Olympiques. Le journal de 7h de la rédaction de Radio 1 et Tiaré FM, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
Valdemar, on commence par un retour sur la soirée d'élection Miss France.
Oui, l'aventure s'est arrêtée aux portes de la grande finale samedi matin pour Temanava Domingo, notre Miss Tahiti 2024. C'est finalement la Martiniquaise Angélique Angarni-Philopon, 34 ans, qui a été élue Miss France 2025. Elle est la première trentenaire à être élue. Une question de personnalité, à en croire la directrice du comité Miss Tahiti, Leyana Faux.
Maintenant, on ne se dirige plus que sur un concours de beauté, on est vraiment sur un concours de personnalité. Elle avait une histoire, un storytelling. Elle s'était présentée à Miss Martinique il y a une dizaine d'années. Elle est revenue, je crois qu'elle avait 18 ou 19 ans. 12 ans après, elle revient, elle se présente à Miss Martinique, elle gagne. Elle se présente à Miss France, elle gagne. Donc je pense qu'elle avait vraiment une histoire. Son discours était préparé dans ce sens. Je pense que beaucoup de Françaises peut-être se sont reconnues dans son histoire. Puis voilà, et elle a su séduire, j'imagine, le public qui a voté pour elle et puis les membres du jury surtout.
Et de son côté, Temanava Domingo s'est exprimée au lendemain de l'élection sur les réseaux sociaux. Elle s'est montrée reconnaissante et positive. Elle affirme avoir compris l'importance du chemin qui l'a menée à cette aventure. Elle adresse aussi un message positif à son Fénois. Tahiti, j'arrive et on a encore plein de choses à vivre ensemble, nous dit-elle.
Et lors de cette élection, la Polynésie a aussi brillé grâce à un créateur.
Oui, si Temanava Domingo était directement sous les feux des projecteurs, un autre Polynésien, Manuari Teoroa, convoitait quant à lui le prix de la plus belle tenue régionale. Et c'est avec sa création pour Miss Île-de-France que ce styliste polynésien originaire des Australes a finalement remporté le concours. Un triomphe auquel il ne s'attendait pas, mais qui l'a profondément touché.
Il y a eu une vague d'émotions, il y a eu une vague de commentaires, de mots encourageants, de reconnaissance. Les Polynésiens, je les ai sentis fiers, même si je n'ai pas habillé Miss Tahiti cette année. Je suis un enfant du Fénois et par ce titre, je montre aussi à les jeunes générations qui rêvent de faire de la mode, que ça n'arrive pas qu'aux autres et que même si on vient d'une petite île comme moi, de Rurutu au fin fond des Tuapé, eh ben, on arrive à être gagnant.
Et pour sa tenue pour Miss Île-de-France, Manuari Teoroa s'est inspiré par le Moulin Rouge de Paris. Il a conçu une robe sirène en dentelle rouge donc, parsemée de strass et de paillettes. Une sorte d'hommage à l'histoire parisienne qu'il a sublimée avec une couronne en forme de moulin, imaginée et cousue à la main. Une tenue portée à merveille par la Miss Julie Dupont.
La communication, elle était assez simple et puis on a eu beaucoup de feeling dès le premier jour où on s'est vu pour le premier essayage. Elle a essayé sa tenue, il n'y a eu aucune retouche à faire. Les épaulettes tenaient très très bien, le moulin pareil. Et puis surtout la robe épousait vraiment son corps et surtout ça lui plaisait. Donc elle était super super ravie, elle était trop contente et du coup moi aussi.
Et pour 2025, le Polynésien a de nouveaux projets. En juillet, il prévoit de revenir au Fénois où il compte bien créer une des tenues végétales pour la prochaine élection de Miss Tahiti. En parallèle, après une participation à la Tahiti Fashion Week, il souhaite présenter une collection lors de la Fashion Week de Paris.
Il est 7h04, on clôt ce chapitre Miss pour vous reparler du dossier de la concession de Tahiti Fa.
Oui, un tout autre sujet, un sujet qui traîne avec un nouveau report dans cette question importante pour la gestion de l'aéroport. La date limite de dépôt des dossiers de candidature avait été fixée au 17 décembre, et bien elle a été repoussée au 4 février prochain. Deux candidats sont en lice, sans surprise il s'agit de Vinci Aéroports d'une part et d'Egis avec la CCISM, Egis qui est toujours aux commandes de la plateforme via sa participation majoritaire dans la société Aéroports de Tahiti. Restera ensuite dans ce dossier l'instruction par la DGAC, une procédure qui prend quasiment 2 ans. La date de démarrage de la prochaine concession est fixée au 1er janvier 2027.
Dans le reste de l'actualité, le gouvernement fait machine arrière sur son projet de régulation de l'énergie.
Oui, le texte qui devait consacrer le transfert de cette compétence du pays à l'autorité de la concurrence a été retiré en séance de plénière de l'Assemblée jeudi dernier, après une intervention de Nuihau Laurey qui dénonce notamment un désengagement du pays. Le gouvernement promet de plancher sur le projet de loi et de revenir devant l'Assemblée lors de la prochaine session administrative.
Et puis à Faa, le Tavigny a inauguré son nouveau QG.
Oui, le Parti Bleu Ciel a dévoilé sa nouvelle permanence. Elle est située à proximité de la mairie. C'est un bâtiment de 500 mètres carrés, entièrement démontable. Il est installé sur un terrain loué pour 10 ans. Le Parti Bleu Ciel quitte ainsi l'entrepôt de Tavararo, propriété de Oscar Temaru. Cette inauguration marque une étape importante pour le Tavana.
Là, aujourd'hui, c'est un jour de joie, quoi. Là, on est chez nous, on a une permanence, voilà. les membres du parti pourront venir ici. On va essayer d'équiper notre permanence avec tous les moyens d'aujourd'hui, les nouvelles technologies de communication et tout ça, pour qu'on puisse entendre la voix de Tavni Huynatra, c'est-à-dire la prospérité et l'avenir de notre pays.
Voilà, et de nombreuses figures du parti étaient présentes pour l'événement, à commencer par le président du pays, Moëtai Brotherson, mais aussi celui de l'Assemblée, Tony Géros, ainsi que plusieurs ministres.
L'heure est au bilan pour Paris 2024.
Oui, souvenez-vous, on peut que s'en rappeler, il y a un peu plus de 4 mois, Kaoli Vast, après une parade en jet ski devant une fan zone déchaînée, brandissait sa médaille d'or sur le podium olympique. L'apothéose de 10 jours de compétition à Tehaupo et surtout de plus de 3 ans de préparation. Mais pour l'antenne locale du comité d'organisation de Paris 2024, ce n'était que le début d'une nouvelle phase du projet olympique, une phase qui s'achève. Il a fallu honorer les obligations financières, contractuelles, administratives et mener à terme les partenariats. Bref, lever le camp proprement du Fénois. Et c'est Barbara Martins-Nio qui supervise ses missions d'après JO. Il y a bien sûr eu le démontage des infrastructures temporaires, celle de la Tour des Juges, mais il y a surtout eu le paiement des entreprises et patentées qui ont prêté main forte dans ces Jeux.
C'est 354 prestataires qu'il fallait régler. Ensuite, il a fallu effectivement qu'on fasse ce qu'on appelle la réédition des comptes à destination de la DICP. Il faut qu'on fasse un rapport aux douanes également. Et ensuite, on a le programme d'héritage secondaire vie de Paris 2024. Pour mémoire, on avait 71 millions de francs pacifiques d'actifs. On a fait le choix effectivement qu'ils puissent profiter à notre écosystème, à savoir la Fédération Tahitienne de Surf, mais également les communes et l'ensemble des associations, services de l'État et services du pays éligibles.
Et le comité d'organisation des Jeux du Pacifique Tahiti 2027 va lui aussi bénéficier d'un transfert de matériel, mais aussi d'un transfert de compétences et de savoir-faire.
Donc ça, c'est une super nouvelle pour le COJ, parce qu'effectivement, ils récupèrent des salariés qui ont vécu 2 ans de préparation du plus grand événement sportif au monde. Et c'est une super nouvelle pour nous, puisque ça garantit effectivement une sorte de continuité de travail, de l'emploi, et faire en sorte que ces gens qui ont pris énormément en compétences quelque part puissent rebondir sur leur métier de prédilection. C'est gagnant-gagnant.
Et l'administration elle-même devrait garder l'empreinte de l'organisation olympique avec la création récente d'un comité stratégique des Jeux du Pacifique. C'est l'équivalent du COPIL qui avait été mis en place pendant toute la préparation de l'épreuve olympique.
Donc c'est un des points, j'allais dire, fantastiques des Jeux, c'est cette capacité à fédérer de façon extrêmement large, à casser ce que moi j'appelle les silos, c'est-à-dire travailler en transversalité. Et aujourd'hui, cette comitologie, ça a été, je pense, un très très bon exemple pour nous, ça a été un très bon exemple pour l'État, c'était un très bon exemple pour le pays, et on a appris à travailler tous ensemble, et on a appris à travailler efficacement et on a appris à travailler rapidement. Et ça, c'est effectivement un des héritages que les Jeux du Pacifique vont pouvoir récupérer.
Et la dernière étape pour Paris 2024 au Fénois sera la fermeture complète de son établissement secondaire implanté à Tahiti. Ça doit être acté la semaine prochaine. Du côté de l'association principale, le comité d'organisation parisien, eh bien, elle reste bien active en métropole. Elle devrait l'être encore pour 1 ou 2 ans. Il faut dire que l'exercice de clôture des comptes est plus complexe. Le budget de la structure a été arrêté à 537 milliards de francs avec un résultat positif. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve à 7h30 pour la revue de presse d'actualité locale. Le prochain point avec l'actu, ce sera le flash de 8h.
Merci Valdemar pour ce journal. Maintenant, c'est votre météo sur Radio.